Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Maintenant, c'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Aurélien de Vernois, ce qu'on dit aujourd'hui les uns et les autres, et nous décrypterons cette parole avec un politologue. Ce soir, Frédéric Michaud. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études du département Opinion d'Opinionway. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, des violences, mais aujourd'hui, le calme à Paris pour les manifestations de Gilets jaunes qui célèbrent le premier anniversaire, c'est pile ce dimanche, du mouvement de contestation. En province, des ronds-points ont été occupés, ça et là, mais rien à voir avec la mobilisation passée. Ce samedi, il y avait donc eu une flambée de violence place d'Italie avec des pompiers caillassés et le monument dédié au maréchal Juin vandalisé, Aurélien.
Des violences aussitôt condamnées par une bonne partie de la classe politique française et en premier lieu par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin.
Ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants, mais par contre des brutes, des voyous, qui étaient venus pour se battre, pour en découdre avec les forces, pour empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelquefois des vies.
Mais si tout le monde, ou presque, condamne ces heurts, la question des responsabilités se pose pour Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le, il était sur France 3 ce midi.
À Paris, le préfet Lallemand a demandé que la manifestation démarre place d'Italie. Place d'Italie, il y a des chantiers. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que ce n'était pas le bon endroit. Même le maire de l'arrondissement a trouvé que ce n'était pas le bon endroit.
Donc vous mettez en cause le matin, préfet, vous.
Oui, bien sûr. Le préfet de police a été nul dans cette affaire. Il a lui-même créé les conditions des débordements.
Les nuls, les brutes et les voyous, ce pourrait être le titre d'un western de Sergio Leone. Pour le député européen, Les Républicains, François-Xavier Bellamy, c'est surtout très inquiétant.
Devant ces images, on ne peut que constater l'incroyable impuissance de l'État. C'est quand même des images frappantes qui montrent que le désordre peut régner au cœur de la capitale aujourd'hui encore. C'est toute notre démocratie qui recule. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté lorsqu'il n'y a pas d'ordre public. Il n'y a pas de liberté de manifester lorsque toutes les manifestations sont désormais systématiquement prises en otage par des casseurs, par des black blocs que l'on voit agir dans une forme d'impunité qui semble un peu sidérante.
François-Xavier Bellamy sur France Inter ce matin. Quant aux Gilets jaunes, eh bien ils sont plutôt amers. Écoutez l'une de leurs figures, Priscilla Ludowski.
Le président n'a pas voulu recevoir les revendications en main propre. Ils ont mis une stratégie en place au ministère de l'Intérieur pour nous dégager avant même que la manifestation commence, alors que ça avait fait l'objet d'une déclaration signée, voilà, en bonne et due forme. Donc voilà, je pense que l'idée, c'était, comme toujours, d'étouffer le mouvement, de l'empêcher de progresser. Et ça, c'est ce que c'est leur ligne de conduite depuis le début. Donc le bilan, c'est qu'on n'a pas de réponse politique et que ça fait un an qu'il y a un mouvement social dans un pays d'un président qui n'en a rien à faire.
Quant à Jérôme Rodriguez, lui aussi parmi les gilets jaunes les plus médiatiques, notamment parce qu'il a perdu un œil lors d'un défilé, il ne mâche pas ses mots vis-à-vis de Christophe Castaner.
Quand il arrêtera d'écrire l'histoire de France en lettres de sang accompagné de son copain Macron, parce qu'aujourd'hui, le seul responsable de moi finir aveugle d'un œil, c'est lui. Le seul responsable de 5 mains arrachées, c'est lui. Le seul responsable de 25 éborgnés, c'est lui. D'arrestation arbitraire, c'est lui. Alors je vais te dire un truc, il n'est pas levé pour venir me donner des leçons. Parce que quand lui, il aura perdu un œil, tu verras que son discours sera totalement autrement.
Jérôme Rodrigue, qui vous a tutoyé, Aurélien de Vernois, puisque c'est à votre micro que vous avez recueilli ce témoignage, ainsi que celui de Priscilla Dulowski. Frédéric Michaud, ces violences commises par des gens en noir entachent bien évidemment la cause des gilets jaunes.
Oui, évidemment, on a le sentiment que, ces violences sont indissociables du mouvement, même si elles émanent de groupuscules qui sont extérieurs au mouvement. Et en réalité, on est là face à la répétition ad libitum d'un schéma qui est très connu, c'est-à-dire des manifestations qui dégénèrent en violence, qui dit une double incapacité. Une incapacité d'abord du mouvement à se structurer pour éviter ces débordements qui nuisent à son image et qui empêchent la diffusion de son message, ce que disait votre reportage, et puis aussi une incapacité de la part des pouvoirs publics à contenir ces casseurs.
Frédéric Michaud, chaque semaine depuis un an, Opinionway suit le mouvement avec des enquêtes d'opinion permanentes. Qu'est-ce qu'il en ressort sur une année ?
Alors, sur une année, il en ressort que le mouvement qui était, le mouvement des Gilets jaunes qui était très soutenu à ses débuts a fait l'objet d'un soutien qui a très largement décru, notamment à cause ou grâce aux différentes mesures qui ont été annoncées par les pouvoirs publics. Et puis, depuis la fin du grand débat national, c'est-à-dire depuis la fin du printemps, les positions se sont stabilisées avec une courte majorité qui était opposée ou qui ne soutenait pas ce mouvement des Gilets jaunes. Mais cette semaine est intervenue une inflexion, peut-être à l'approche de l'anniversaire des 1 an, avec désormais une majorité, 51% des Français, une courte majorité, qui déclare soutenir ce mouvement des Gilets jaunes qui, on le voit, est loin d'être terminé.
Alors, puisqu'on parle de chiffres, la mobilisation n'a pas été celle des grands jours, hein, que ce soit hier ou aujourd'hui. Officiellement, 28 000 protestataires hier dans toute la France, bien loin des 282 000 porteurs de gilets fluorescents comptabilisés le 17 novembre 2018. Et après, Aurélien?
Oui, c'est bien la question qu'on se pose. Hein. Comment les Gilets jaunes peuvent-ils sortir de cette litanie des manifestations et donc des violences qui les accompagnent? Le veulent-ils aussi alors qu'ils continuent à marquer leur distance avec les partis politiques ou les syndicats? La mobilisation contre la réforme des retraites le 5 décembre prochain pourrait être un bon indicateur car les Gilets jaunes ont annoncé vouloir y participer. D'autres sont tentés aussi, d'ailleurs, étudiants en tête. Une perspective qui n'enchante guère le gouvernement, c'est le moins que l'on puisse dire. Écoutez, à ce propos, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Certains voudraient faire le grand amalgame et faire la grande révolution, le grand soir. Ils régleront aucun problème et n'apporteront que de la douleur et de la souffrance supplémentaire aux gens. Nous, avec le président de la République, avec toute la majorité, les députés qui sont derrière moi, nous prenons chaque sujet et nous attachons à porter la juste réponse, celle qui est efficace, celle qui est durable à chacun des problèmes. Tous ceux qui veulent jouer l'amalgame ne rendent pas service à la France.
Voilà, on l'a compris, hein, la stratégie du gouvernement est assez claire. Séparer les luttes pour éviter la coagulation, hein, c'est leur terme. C'est ce qu'explique d'ailleurs la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, chez Radio J.
Pour un certain nombre de personnes, c'est en quelque sorte la martingale.
Et donc, ça veut dire quoi, la martingale?
Bah, ça veut dire le meilleur moyen de contribuer à alimenter le désordre dans notre pays. Donc moi, je crois pas que ce soit un but en soi. Il convient de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui souffrent, quelles réponses peuvent leur être apportées, parce que il y a des origines différentes.
Sauf qu'évidemment, dans l'opposition, l'analyse est bien différente. Jean-Luc Mélenchon se félicite ainsi de la décision des Gilets jaunes et il va même plus loin.
Laissez-moi vous dire que la grève a lieu le 5, c'est un jeudi, et le samedi, il y aura à nouveau une grande marche des Gilets jaunes. Par conséquent, j'espère que le samedi aussi, ceux qui auront été dans la lutte le 5 viendront aussi le samedi dans la rue.
Vous faites un appel à la manifester le samedi avec
les Gilets jaunes. Je trouve que ce serait une bonne chose parce que les Gilets jaunes ayant appelé à venir le 5 décembre, eh bien, je trouve que ce serait bien qu'on soit tous dans la rue le samedi 7 décembre.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon sur France 3. Et donc, on rappelle bien sûr que la grève étant illimitée, eh bien, il pourrait y avoir en effet des cortèges multiples hein, le 7 décembre également.
Frédéric Michaud, le mouvement des Gilets jaunes reste-t-il un révélateur puissant de la crise profonde qu'engendre, selon eux, le maintien du système libéral, capitaliste, productiviste? Est-ce que l'opinion publique est sensible à la notion d'égalité qui est portée par ce mouvement?
Oui, vous avez raison, c'est le révélateur d'une crise qui est très profonde, qui traverse tout l'Occident et pas seulement la France, qui en réalité est liée aux secousses économiques du développement de la mondialisation. Quand on interroge les Français sur la mondialisation, on a 38% des Français, donc quasiment 4 Français sur 10, qui déclarent que la France doit se protéger davantage du monde. Ça dit quand même la tentation d'un repli, d'une protection. Alors cette mondialisation, elle génère des inégalités qui, dans l'état d'esprit des Français ou dans leur perception, ne sont pas prises en charge par l'élite. Donc il y a un fossé qui se creuse entre d'un côté une élite qui se replie sur elle-même. Par exemple, 74% des Français nous disent que l'État est conduit uniquement dans l'intérêt de quelques-uns. Et puis de l'autre côté, un peuple qui se sent de plus en plus esselé.
Du coup, il n'y a pas que les Gilets jaunes qui se mobilisent. Jeudi dernier, grève dans les hôpitaux, au point que le Premier ministre dévoilera dans 3 jours un nouveau plan pour sortir de 8 mois de blocage. Il y a eu l'immolation à Lyon d'un étudiant, situation de grande précarité. Et puis, cette réforme des retraites qui fera se rencontrer le ministre des Transports et les syndicats de cheminots, ce sera jeudi prochain. Y a-t-il là tous les ingrédients d'une convergence des luttes de coagulation, comme disait Sibeth Ndiaye, ou de grand soir, comme s'en inquiétait Bruno Le Maire? maire tout à l'heure.
On pourrait ajouter aussi l'image de départ de foyers qui s'embrasent dans un grand incendie. Enfin, les métaphores sont multiples sur ce sujet. On voit bien que le mécontentement et les revendications des uns alimentent les revendications et le mécontentement des autres. Il y a donc un phénomène de renforcement mutuel des mouvements, mais pour l'instant, la jonction n'est pas opérée et le gouvernement s'applique à faire en sorte justement que cette coagulation n'arrive pas.
Sachant que tout le monde a en tête ce qui s'est passé en 95, hein, contre le plan Juppé, des grèves qui avaient duré plusieurs semaines, et c'était déjà la question de la réforme des retraites. Là encore, on a la réforme des retraites. Comment expliquer que ce dossier des retraites soit un mur sur lequel butent tous les gouvernements ?
Alors, pas tous les gouvernements, il y a quelques gouvernements qui sont parvenus à faire des réformes et le système n'est pas resté en l'état par rapport à la situation de 95. Il y a une réforme en 2003, il y a une réforme en 2010 notamment, mais c'est un sujet qui évidemment est central dans la vie des Français et qui touche au pouvoir d'achat et par conséquent c'est un sujet très sensible.
Avec ce dossier explosif de la réforme des retraites, le président de la République avance en terrain miné. Si Emmanuel Macron doit renoncer, même partiellement, cela pourra bien sûr lui coûter en cher en termes de capital politique, lui qui a fait de l'action et de la réforme son mantra.
Oui. Oui, vous avez raison, c'est le vrai tournant du quinquennat. Il y a une sorte de quitte ou double pour le chef de l'État. Ce sera le révélateur de la nature du macronisme. Est-ce que c'est une volonté de transformation, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions? Ou bien est-ce que c'est une force profonde de transformation des structures politiques du pays? On voit bien que si la réforme est réussie politiquement, il arrivera à arrimer tout l'électorat de la droite qu'il avait rejoint lors des élections européennes et il sera alors en très bonne position dans la perspective de l'élection présidentielle. Et puis, au contraire, si on a une réforme à minima ou une réforme manquée, le risque de hollandisation ou d'immobilisme ouvrirait évidemment un espace à droite et à gauche et le mettrait dans de graves difficultés.
Mais finalement, est-ce que le dilemme n'est pas une sorte de perdant-perdant ? S'il renonce à la réforme, il abandonne. S'il la maintient, on dira qu'il est rigide et ne fait aucune concession et n'écoute pas le peuple.
Oui, alors, il ne s'agit pas de maintenir la réforme en l'état. Il n'y a aucune réforme, il n'y a aucun projet initial de réforme qui va à son terme sans être modifié. Tous les projets de réforme font l'objet de négociations avec différents partenaires. Donc, toute la difficulté dans la conduite de ce type de réforme consiste à préserver l'essentiel de ce qu'on veut réformer, tout en négociant avec les parties prenantes pour faire en sorte que la réforme aboutisse.
Mais là, il va devoir lâcher, sinon il va se retrouver face à un embrasement social.
Il va devoir négocier. Et négocier, c'est pas nécessairement renoncer à l'intégralité de sa réforme.
Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale.
Philippe Le Caplain.
Ce matin, près de 300 personnes se sont rassemblées à Oberhofen-sur-Moder pour une marche blanche, silencieuse, recueillie en mémoire de Sylvia. Cette femme de 40 ans a été assassinée dimanche dernier par son mari, sous les yeux de sa fille. 131 féminicides ont déjà été dénombrés cette année. Un nombre rappelé sur la banderole tenue en tête de la marche ce matin. Et puis, il y a ce que dit la garde des Sceaux aujourd'hui dans le journal du dimanche. Dans 65% des cas d'homicide et de violence conjugale, la justice ou la police avait été saisie et la chaîne pénale n'est donc pas satisfaisante. Très clairement, ça ne va pas, reconnaît Nicole Belloubet.
Aurélien oui, mais Bernard. Philippe, ce n'est pas totalement le point de vue de Marlène Schiappa, invitée ce soir de LCI. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a mesuré les propos de sa collègue de la justice.
Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons aux uns et aux autres. Je suis dans l'action, je ne suis pas là dans les bons points ou les mauvais points.
Vous pourriez dire que ce serait éventuellement une bonne démarche, comme ça a été pour la garde des Sceaux.
Moi, plutôt que je préfère que chacun agisse et que chacun prenne ses responsabilités. Sur les forces de l'ordre, ce que je voudrais dire également, parce qu'on les blâme aussi beaucoup, et on a raison de pointer les dysfonctionnements, mais tous les jours, il y a des policiers, tous les jours, il y a des gendarmes qui sauvent la vie de femmes, qui rentrent dans l'immeuble, qui vont les convaincre de déposer des plaintes.
Aurélien de Vernois, vous avez écouté Marlène Schiappa dans la longueur, et alors vous n'avez pas trouvé qu'il y avait une cohésion gouvernementale, hein.
C'est à la fois un manque de cohésion gouvernementale, mais c'est surtout, je pense, du point de vue de Marlène Schiappa, qui doit annoncer des mesures sur ces violences conjugales, la volonté de ménager un petit peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire de ne pas se mettre à dos, notamment la police, parce que la police va avoir un rôle très important à mener dans ces mesures-là. mesures-là qui vont être annoncées.
Frédéric Michaud, directeur des études du département Opinion d'Opinion Way, ce problème des violences faites aux femmes devient un problème sociétal, un problème politique récurrent, ce qui montre qu'il ne peut plus faire les frais d'une actualité qui en chasse une autre, comme ça a été souvent le cas.
Oui, absolument, c'est vraiment un problème qui est... qui en fait était une réalité longtemps passée sous silence et qui s'est imposée dans l'opinion grâce aux médias, dans le sillage de l'affaire Weinstein, qui a été véritablement un catalyseur pour l'opinion publique. On a vu très clairement dans les études une prise de conscience de cette difficulté par les Français, par des sous-catégories de la population, par les hommes, par la société tout entière, par les entreprises, par les médias. Et par les pouvoirs publics. Et là, il y a un cas très intéressant de mise à l'agenda médiatique d'un problème.
J'ajoute que demain, le conseil d'administration de la société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs de cinéma se réunira pour statuer sur le sort de Roman Polanski, dont le film J'accuse vient de sortir au cinéma. Il est accusé de viol par une actrice pour des faits qui auraient eu lieu, voilà, 45 ans. Et puis demain aussi, ce sera le procès en diffamation intenté par Pierre Joxe, l'ancien ministre, contre la femme qu'il accuse d'agression sexuelle. L'exécutif doit donc prendre des mesures d'urgence, il doit faire quelque chose, il ne peut plus faire la passe.
Alors, il faut faire quelque chose. D'ailleurs, quand on interroge les Français sur le sujet, plus de 80% d'entre eux pointent les responsabilités des pouvoirs publics et leur demandent d'en faire une priorité dans leur action. Mais pour autant, on sait très bien qu'une législation saine sur ce type de sujet impose de ne pas réagir dans l'urgence de l'actualité médiatique. Il y a quand même d'autres principes, notamment la présomption d'innocence, qui doivent être respectés.
Frédéric Michaud, votre institut de sondage OpinionWay suit les questions de féminisme. Que nous apprennent vos études ?
Alors, elles nous apprennent que c'est une thématique qui suscite une sensibilité croissante dans l'opinion publique depuis plusieurs années, notamment dans les jeunes générations. On voit très clairement que les Français de moins de 30 ans sont beaucoup plus intéressés par ces thématiques que le reste de la population, même si cette préoccupation ou cet intérêt pour les thématiques du féminisme au sens large, que ce soit le cybersexisme, que ce soit le harcèlement de rue, que ce soit les violences sexuelles dans les transports par exemple, hein, donc vraiment l'intégralité des difficultés que peuvent vivre les femmes au quotidien, cette préoccupation, cet intérêt pour ces questions se diffuse dans l'ensemble de la société à partir des plus jeunes.
Est-ce qu'il y a une lecture politique de ces études ? Est-ce qu'en fonction de son choix politique, on est plus ou moins sensible à ce problème ?
Alors, je dirais que pendant longtemps, ça a été une thématique à laquelle les sympathisants de la gauche, d'une manière générale, étaient plus sensibles, étaient peut-être plus à l'écoute de cette thématique ou de ces problèmes. Mais désormais, j'ai le sentiment que ce clivage politique est en train d'être gommé à mesure précisément que l'ensemble de la population se saisit de ce problème.
Une question d'Aurélien.
Oui, est-ce qu'il y a malgré tout des blocages qui persistent sur ces questions de féminisme et de libération de la parole à ce sujet ? Est-ce qu'il y a notamment des blocages générationnels ?
Oui, il y a évidemment des blocages générationnels qui persistent. Hein. On est là face à une prise de conscience qui est relativement récente, qui a moins de deux ans. Hein. En réalité, c'est vraiment l'affaire Weinstein qui a permis de mettre au jour toutes ces difficultés. Donc, évidemment, dans certaines catégories de la population, et en particulier les plus âgés, il peut y avoir encore des difficultés à s'approprier ce type de sujet.
Merci pour ces commentaires.
Merci
et
à vous.
Ces analyses, Frédéric Michaud, directeur des études du département Opinion d'OpinionWay. La politique encore sur Radio France Internationale. Ce sera mardi politique qui recevra Damien Abad, le président du groupe LR, les Républicains, à l'Assemblée nationale. Dimanche politique était réalisé par Fabrice Violet. Bonne soirée à vous.